Bien, nous allons commencer cette séance de présentation et de discussion de ces trois volumes « Faire des sciences sociales ». Donc je vais être le modérateur. Je voudrais d'abord commencer par dire que l'École des hautes études est vraiment un endroit hors du commun. C'est d'autosatisfaction, bien sûr, mais une autosatisfaction qui, je crois, sera partagée par beaucoup d'entre nous, parce qu'à intervalles réguliers, cette institution se retourne vers elle-même, vers son objet, vers les méthodes des sciences sociales, pour faire un état des lieux, des discussions, des types de complémentarité et d'interdisciplinarité qui peuvent exister entre les différentes disciplines qui la composent. Ça s'est fait... Ça a commencé il y a plus de 20 ans maintenant. Ça a pris différentes formes, soit des réunions par groupe de disciplines, soit des réunions thématiques. Dans certains cas, ce sont des publications. Et le dernier état de ce travail réflexif, ce sont ces trois volumes. Faire des sciences sociales, critiquer, comparer, généralisé. Et pour présenter le projet, je vais demander à Christophe Prochasson, qui est l'artisan, celui qui a fait tenir ensemble toutes les composantes de ce travail, de nous présenter le projet et puis la façon dont il a conceptualisé sa réalisation et mis en œuvre sa réalisation. Christophe.
Merci beaucoup, Philippe. Je suis ici, non pas au titre d'auteur, ni même de directeur de volume, mais au titre de directeur des éditions de l'École des hautes études en sciences sociales, qui, à la différence de beaucoup de presse universitaire, n'est pas simplement un outil de valorisation du savoir en sciences sociales, mais bien un partenaire de la recherche. Autrement dit, je n'ai rien fait et l'équipe dont je suis le responsable n'a en principe rien fait, mais nous avons eu un rôle comme interlocuteur constant d'un groupe de nos collègues, de chercheurs dont vous avez ici les deux représentants et qui ont œuvré à la réalisation de ces trois volumes. Alors, je voudrais, en matière d'introduction, vous livrer quelques réflexions brèves, je vous rassure, qui permettent de comprendre pourquoi les éditions de l'École des hautes études en sciences sociales ont pris cette initiative, car elles ont été, en effet, à l'origine de ce travail. Mais, Philippe, si tu me permets un petit mot avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais d'abord... saluer ceux d'entre vous qui sont des anciens de l'École des hautes études en sciences sociales, puisque c'est à cette occasion, à l'occasion de la création de cette association d'anciens élèves de l'école, que nous nous retrouvons ce soir. Et je voulais aussi remercier Laurent Dapp, qui a énormément œuvré pour la création de cette association et notre réunion de ce soir. Ceci dit, je voudrais en effet rappeler que depuis plusieurs années déjà, le thème de crise des sciences sociales semble s'être imposé. Le constat de cette crise, que je mets naturellement comme il convient entre guillemets, prend plusieurs formes. Pour les uns, c'est la fin des grands modèles théoriques et la prétendue ou réelle d'ailleurs disparition de grandes figures qui attesteraient un recul définitif des sciences sociales pour lesquelles, qui plus est, la France a été longtemps une terre d'innovation. Pour les autres, les sciences sociales se seraient perdues entre le charybde des évidences, ne délayant qu'un savoir ordinaire, qui serait désormais pris en charge et même parfois produit par des acteurs du monde social, des experts, des journalistes, voire des essayistes, charybde des évidences auxquelles ferait face, comme il convient aussi, un scylla d'un discours abscon dominé par le commentaire épistémologique, indifférent à l'apport des résultats empiriques. Évidemment, ce discours, je ne le prends pas à mon compte, bien que on pourrait parfois y trouver quelques consonances. Je ne le prends pas à mon compte parce que ces trois volumes montrent le contraire. Mais il ne fait aucun doute que les sciences sociales en France, mais aussi, rappelons-le, en d'autres pays, en de nombreux autres pays, sont entrées dans une nouvelle période de leur histoire depuis déjà quelques décennies, et que la façon dont nous faisons des sciences sociales répond, comme elle a toujours répondu, à une nouvelle configuration où se combinent de nouvelles données sociales, intellectuelles et politiques. Et il en a toujours été ainsi, avec les sciences ayant pour objet l'étude des sociétés, passées ou présentes, proches ou lointaines, inévitablement ces sciences sensibles à leur environnement. De leur première émergence dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, alors soucieuse de fournir à l'État les outils de la bonne gestion, à aujourd'hui, l'histoire des sciences sociales ne relève pas d'une histoire intellectuelle fermée sur elle-même, bien sûr, et là, les exemples seraient faciles à multiplier. Au début du XIXe siècle, la science sociale, comme on le disait alors, tentait de répondre tout à la fois aux nécessités imposées par la déchirure du lien social entraînée par la Révolution et par la mise au niveau scientifique d'une science sociale encore bien en retrait au regard des développements des sciences de la nature. Saint-Simon, Auguste Comte, Jules Michelet, Frédéric Bastiat, d'autres encore, composent une première phalange de savants succédant au Condorcet et à tous les fondateurs de l'encyclopédie. Deuxième moment, si vous le voulez bien, ou troisième, si l'on intègre le XVIIIe siècle, à la fin du XIXe siècle, c'est le projet républicain qui offre un nouveau cadre accueillant un nouvel âge des sciences humaines. L'université en fait des disciplines académiques, finance des chaires, crée des diplômes attirant des étudiants et fait du savoir une valeur éminente exigée par le message d'émancipation que porte en elle la République de Jules Ferry. Sociologues, ethnologues, juristes, économistes, historiens ont alors pour nom Émile Durkheim, Lucien Lévy-Brulle, François Simian, Henri Baire et tant d'autres aussi. Les sciences sociales se penchent alors une nouvelle fois prioritairement sur les conditions de fabrication du lien social au moment où, notons-le, les nations s'affrontent. Quatrième moment, les années 60 et 70, celles qui nourrissent les plus grandes nostalgies le plus souvent. Le marxisme, récemment introduit dans la vie intellectuelle, étaye alors souvent des approches renouvelées du social. Un nouvel âge d'or, donc, fait de grands noms, Barthes, Bourdieu, Foucault, Lévi-Strauss, Althusser, etc., dans toutes les disciplines, et de grands massifs théorico-épistémologiques, illuminent ce nouveau moment, au point, comme je le disais, qu'il alimente toujours et encore, nombre de nostalgies. Rappelons-en néanmoins quelques coordonnées qui permettent d'en souligner l'absolue singularité. Un nombre limité de chercheurs s'adressant à un public d'étudiants encore peu nombreux, issus des classes moyennes cultivées. Un empire du livre et de la revue, non disputé par d'autres médias. Des médias audiovisuels, entamant une carrière sur le modèle classique républicain, leur conférant une mission prioritaire d'information et d'éducation. Un environnement politique qui pousse en avant les valeurs de dissidence et les pratiques de contestation, un État fort, enfin, et puissant, disposant de moyens. Ce modèle s'est progressivement délité, nous le savons, dans les 30 dernières années, et il n'y aurait, je crois, aucune pertinence, à tenter de le réveiller. Une telle ligne de conduite n'est à même, je crois aussi, que d'engendrer des illusions et déceptions. Autrement dit, parler, comme on le fait trop facilement, de déclin ou de crise des sciences sociales aujourd'hui, revient à ne considérer qu'une partie du bilan au détriment de son ensemble. Et c'est précisément ce qu'ont voulu montrer, ou contribuer à montrer, les auteurs des trois volumes de Faire des sciences sociales. Un dernier mot pour introduire mes collègues et mes amis, pour dire, souligner que ce travail a été d'abord un travail collectif. Ces trois ouvrages ont résulté d'une série de séances de travail tournant autour d'un comité de rédaction et aussi de séminaires de travail où ont été discutés ces articles. Autrement dit, il ne s'agissait pas là d'un ouvrage collectif fait d'articles appelés en quelque sorte à distance, mais des livres pensés, articulés, produits par un véritable collectif de chercheurs. Deuxième caractéristique, ces volumes défendent l'idée à laquelle, je crois, nous sommes tous attachés, de l'unité des sciences sociales. Ces volumes ne sont pas disciplinaires. Nous aurions pu faire, de façon un peu paresseuse, un volume sur l'histoire, un autre sur l'anthropologie, un troisième encore sur la sociologie, mais nous aurions d'abord oublié beaucoup de disciplines, et ça aurait été, je crois aussi, trahir le message scientifique que nous voulons porter. Troisième remarque aussi, je crois, c'est la question de la relation que tous ces chercheurs entretiennent avec le passé de leur discipline, le passé des sciences sociales, et notamment la relation critique qu'ils entretiennent avec les héritages théoriques dont ils sont les légataires. Enfin, je finirai sur ce point et sur une note un tout petit peu institutionnelle. Il y a aussi, c'est important de le souligner, dans ces volumes, une dimension générationnelle. Alors, ce ne sont pas tout à fait des enfants, encore que je crois que nous sommes jeunes maintenant très très longtemps, n'est-ce pas, Jocelyne ? Mais enfin, ils sont porteurs d'une génération qui est aujourd'hui en pleine activité, qui n'a pas encore tout à fait la notoriété qu'on lui souhaiterait avoir, mais qui est en train d'émerger, avec déjà d'ailleurs l'importance de travaux. Et je voudrais finir juste sur cette note qui pourra illustrer mon propos, c'est que, vous le savez, l'École des hautes études vient de se doter d'un nouveau président et d'une nouvelle équipe présidentielle, et je remarque que sur les quatre chercheurs qui composent l'équipe présidentielle, trois sont des auteurs de Faire des sciences sociales.
Merci Christophe pour cette présentation. Tu as souligné le caractère exceptionnel de cet ouvrage, mais je voudrais aussi rappeler, comme je le disais en préambule, le caractère exceptionnel de l'entreprise générale de revenir à intervalles réguliers sur ce qui fait le fond commun de notre activité de chercheur en sciences sociales. Je crois qu'il n'y a aucune autre institution qui ne s'est pliée à cet exercice dans le champ des sciences sociales, ni d'ailleurs en France, ni ailleurs dans le monde, et c'est un point qu'il faut souligner. Alors, nous avons ce soir, comme tu l'as rappelé aussi, non seulement la célébration et de la création de l'Association des anciens élèves de l'École des hautes études en sciences sociales, mais aussi, dans ce cadre, deux éclairages qui vont être apportés sur cet ouvrage et qui vont servir d'ouverture pour une discussion plus générale sur leur contenu. Alors, je ne sais pas ce qui... Jocelyne, tu commences. Hein. Jocelyne Daclia, donc, va intervenir en premier pour un exposé de 25 minutes, à peu près.
Alors, merci tout d'abord de m'avoir associé à cette aventure éditoriale et de m'avoir associé à cet échange ce soir. Je ne vais sans doute pas parler du livre en tant que tel. Le responsable de cette aventure vient d'en expliquer le principe et l'esprit. Moi, les quelques mots que je voudrais dire sont plus en forme de témoignages et parleront peut-être moins de mon texte que de mon expérience personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, en effet, faire des sciences sociales aujourd'hui ? Pourquoi ? Pour qui ? Donc j'aimerais apporter une réponse qui est nécessairement partielle et située, et ce dont j'aimerais parler, c'est de mon expérience d'historienne du monde arabe et spécialement du Maghreb. Je voudrais dire en effet que le fait de travailler sur le monde arabe et musulman dans un moment de très forte tension politique en France et dans le monde autour de l'islam, de la question de l'islam, a profondément infléchi, modifié ma façon de faire de l'histoire et mon rapport aux autres sciences sociales. Je dirais qu'en ce sens, d'une certaine façon, la crise des sciences sociales, moi je ne l'ai pas vue passer tellement elle était de toute façon écrasée par cette crise de mon objet d'étude. Il y a deux points que j'aimerais aborder. Le premier, c'est celui du piège de la différence, ou de ce que j'appellerais le piège de la différence. Et le deuxième, c'est la question de comment être chercheur et répondre à une demande sociale. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, c'est l'anthropologie historique qui était à son apogée. C'était l'époque où vous vous en souvenez tous, les travaux de Jacques Le Goff, d'Emmanuel Leroy Ladurie trouvaient un très large public, rencontraient un très large écho dans la société. C'est-à-dire que cette manière nouvelle pour les historiens de poser que le passé était exotique, que notre passé était exotique et nous renvoyait à d'autres mentalités, pour reprendre le terme clé de l'époque, ou à d'autres cultures, comme on dirait plus volontiers aujourd'hui. Donc cette idée d'une exoticisation de notre propre passé, elle a justifié une forme d'engouement assez massif pour l'histoire. Mais si on y réfléchit bien, l'anthropologie historique est restée principalement une histoire européenne concernant l'Europe, la France, l'Italie s'anthropologisait elle-même, mais que ce soit sur l'Inde ou sur l'Afrique, on ne faisait pas de l'anthropologie historique, on faisait de l'anthropologie tout court. D'où l'enjeu pour un certain nombre de spécialistes du monde arabe de pratiquer justement une anthropologie historique des sociétés, de sociétés qu'on aurait pu tout simplement renvoyer à leur culture et à leurs différences. L'enjeu, c'était aussi donc de sortir le monde arabe à l'époque d'une histoire qui était passablement incommunicable, très savante, qui restait fermé au grand public, le ghetto donc de l'orientalisme, de l'érudition orientaliste qui était réservée à un assez petit nombre d'initiés. L'idée alors, c'était qu'on pouvait étudier le monde arabe, et on ne parlait pas tellement de l'islam à l'époque, mais on pouvait étudier le monde arabe, par exemple, sous l'angle de la sainteté, tout comme dans la grande vague de l'anthropologie historique, on allait étudier les saints bretons ou les saints provençaux, les manières de mourir, etc. Et ça marchait. Ça marchait. Il y a eu notamment une quantité de travaux sur la sainteté, notamment au Maghreb. Et là, on voyait bien que la question de l'islam ne faisait absolument pas obstacle. Il n'y avait pas de barrière de l'altérité liée à la religion musulmane. Et la démonstration donc se faisait qu'on pouvait appliquer les mêmes outils conceptuels, les mêmes outils intellectuels de part et d'autre de la Méditerranée. Or, le paysage intellectuel a très profondément changé au cours des années 1980, avec l'émergence d'une crise profonde autour de l'islam en France et au-delà de la France, bien sûr, si bien que la question du même ne prenait plus du tout le même sens et que la question de la différence ne prenait plus du tout, bien sûr, le même sens. En deux mots, je voudrais dire tout d'abord que sur un plan civique, l'émergence de l'anthropologie historique en tant que fascination pour une altérité du passé, mais aussi une altérité au plus proche, je la relis à son contexte politique des années 1970, qui était sur le plan de l'immigration en France, des années de militantisme, d'engagement en faveur du fameux droit à la différence des immigrés. Et selon moi, ça constituait un piège, autant sur un plan politique que sur un plan scientifique. C'est-à-dire que le droit à la différence a réifié la différence. Et sur le plan de la recherche, L'histoire des mentalités a, au bout du compte, accrédité, au moins de manière implicite, l'idée qu'il y avait bel et bien des mentalités différentes. Et dans notre travail d'historien, en l'occurrence du monde arabe, nous étions de plus en plus renvoyés par nos collègues historiens de la France ou de l'Europe à une sorte de postulat de la différence des Arabes, postulat de la spécificité de l'islam. Donc l'islam devenait dans ce moment un élément irréductible. Ce qui fait que j'ai développé au passage une certaine prudence à l'égard du label de l'anthropologie historique. Bon, j'assume toujours ce que je fais comme étant une anthropologie historique dès lors que j'essaie de pratiquer une histoire à l'échelle de plusieurs régions, pays, plusieurs sociétés, pour comprendre des logiques dans le temps long des sociétés, pour comparer aussi des modèles de sociétés, mais je me méfie terriblement maintenant du culturalisme inhérent à l'anthropologie historique et, je dirais, dans une large mesure, à l'anthropologie tout court. En effet, à faire de l'histoire, je dirais qu'on s'aperçoit souvent que la part de la culture, elle est beaucoup plus mince qu'on ne pourrait le penser a priori. Et c'est le sens de la contribution que j'ai publiée dans l'un des volumes donc de la trilogie des sciences sociales, qui en gros pose la question comment traiter la Méditerranée, pour en résumer l'argument en quelques mots, la Méditerranée entre Europe et Islam, la Méditerranée au contact, comment la penser et comment penser le contact même. On a spontanément en tête une sorte de culture méditerranéenne enracinée dans une morphologie physique, dans un climat. L'anthropologie des années 1960-70 a, comme vous le savez, mis à mal ce modèle du socle méditerranéen, même s'il connaît régulièrement des résurgences. Et donc on ne peut plus raisonnablement penser la Méditerranée comme une entité, qu'elle soit physique ou culturelle. Et je passe pudiquement sur la question politique de l'Union pour la Méditerranée, qui fait appel à cette vague idée méditerranéenne, mais sur un mode au fond un peu incantatoire. Alors l'autre façon de traiter la Méditerranée, c'est d'y voir au contraire une frontière par excellence, le lieu où se clivent, se séparent le Nord et le Sud, l'Europe chrétienne et l'islam. Là, je vous renvoie bien sûr à Henri Pirenne et ses avatars. Ce type de perception, donc d'une sorte de dérive des continents, est la formule qui a été le plus sollicitée depuis au moins décennies, et notamment, bien sûr, après le 11 septembre et avec la parution du choc des civilisations de Huntington. Donc on voit bien que la politique de fermeture des frontières européennes au sud est en résonance immédiate avec le débat civique en termes de représentation historique. Il y a des connexions évidemment étroites entre le politique et ce discours civique ambiant. Le processus de construction de l'Union européenne, après la chute du mur de Berlin, a induit d'une certaine façon une remontée vers le nord du centre de gravité de l'Europe, au détriment d'une prise en compte de la Méditerranée dans les représentations identitaires, dans l'histoire de soi, finalement. Alors, plus que jamais, on met l'accent sur les différences culturelles, qu'on les attribue ou non à l'islam, mais c'est bien souvent à l'islam qu'on impute ces clivages. Et la culture est presque toujours première dans les débats, ou en tout cas les formulations en termes de différences culturelles. Et face à cette lecture clivée, clivante de l'histoire, beaucoup d'historiens, mais aussi de spécialistes de littérature, par exemple, se sont mis à essayer de refaire du lien, finalement, à essayer de surmonter ce fossé, non pas seulement pour des raisons de bien-pensance ou des raisons politiques, civiques, mais tout simplement parce que c'est une réalité fausse. Or, pour montrer qu'il y avait des contacts malgré tout en Méditerranée, la plupart d'entre eux, finalement, peut-être parce que dans ce renouveau des études méditerranéennes, il y a beaucoup d'Américains qui sont inscrits dans une perspective déjà assez multiculturaliste. Donc beaucoup de spécialistes récents de la Méditerranée, on s'en rend compte, entérinent eux aussi finalement le cadre de sociétés bien séparées, bien distinctes, reprennent à leur compte l'idée de départ de cultures bien, bien distinctes, mais en montrant qu'il y avait des échanges malgré tout, et des échanges assez intenses, Grâce à qui ? Grâce à des médiateurs. C'est-à-dire que pour penser le lien, maintenant, il faut des opérateurs de contact, des médiateurs. Et donc, depuis 10 ou 20 ans, on ne cesse de réfléchir sur les traducteurs culturels, sur les passeurs, les intermédiaires culturels, les gens donc qui permettraient de réduire le hiatus des cultures et d'entrer en circulation. Alors, ce courant de recherche est très intéressant, mais pour moi, il a une limite et c'est là que j'investis une partie de mon énergie de chercheur. Sa limite, c'est qu'il présuppose donc que toute dynamique, au fond, va venir de ces médiateurs, de ces gens de l'entre-deux, individus ou groupes assignés au contact. On va, si vous voulez, entériner l'idée que ce sont eux les porteurs de changement, de modernité, les porteurs de transferts culturels, les sociétés au contact, elles, étant beaucoup plus amorphes, beaucoup plus passives. Et on voit bien que pour le cas du monde islamique, il y a là une conséquence très, très importante, et même très grave, c'est-à-dire qu'on va survaloriser notamment la capacité à faire du lien, à créer de l'initiative et du contact, de gens qu'on considère déjà comme étant identitairement dans un entre-deux, c'est-à-dire les minorités juives et chrétiennes des sociétés islamiques. On va en faire des porteurs de modernité au détriment des composantes majoritaires des sociétés islamiques qui sont les musulmans. Or, quand on regarde la question des circulations et des contacts en Méditerranée entre Europe et Islam, on se rend compte qu'il y a aussi une présence massive de musulmans dans ces circulations, quand on regarde de plus près, et on constate qu'eux aussi avaient une familiarité avec l'Europe, connaissaient les langues européennes éventuellement, et donc la figure un peu héroïsée du médiateur dans ces contextes, quand on prend en compte cette donnée, elle n'a plus du tout la même pertinence. Un exemple tout simple, on a très longtemps pensé que les marchands musulmans n'allaient pas en Europe avant la colonisation et que le commerce transméditerranéen avant le 19e siècle était soit dans la main des négociants européens, soit entièrement effectué par des minorités arméniennes, grecques, juives, etc. Évidemment, ces diasporas ont joué un rôle crucial, ou ces minorités en diaspora ont joué un rôle essentiel, mais on est en train de redécouvrir qu'il y a eu des marchands musulmans présents dans cette histoire de circulation. Donc toute une histoire à refaire et à voir, en résonance évidemment immédiate avec la manière dont nous pouvons penser notre présent et ses dynamiques. Or, une des raisons pour lesquelles on n'a pas vu ces musulmans en Europe, c'est qu'il y a bien des différences dans le fonctionnement des sociétés et dans la place qu'elles réservent à l'étranger. Alors, je ne développerai pas ici ce point, ni cette notion d'étranger, mais la question sur laquelle je voudrais insister, c'est que ces différences, elles sont d'ordre souvent fonctionnel et non pas culturel. Ce sont des accentuations souvent différentes de formules sociétales qui, elles, peuvent s'avérer parfois très proches. Par exemple, il y avait à l'époque moderne, donc avant le 19e siècle, il y avait des chrétiens dans les armées islamiques et à des places très visibles. Il y a eu aussi des musulmans en Europe, dans des corps d'armée, mais à des places ou à des grades beaucoup moins visibles. Donc on a finalement, d'une certaine façon, un même système, mais modulé de manière différente ou pas au même degré. Et là, il n'est pas question de culture. Donc toute différence ne renvoie pas nécessairement à une différence culturelle. Il y a des différences politiques, sociales, pour lesquelles le label de la culture ne saurait être qu'un label extensif et flou. Je prends rapidement un autre exemple, s'il me reste
tout à fait,
un peu de temps. En effet, il y a un lieu commun qui revient de manière assez récurrente et dont on a beaucoup discuté ces derniers temps avec les révolutions arabes, c'est la question du despotisme dans le monde islamique, et c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Vous savez que c'est là, par excellence, une tradition autoritaire qu'on présente comme constitutive du monde islamique. Mais quand on compare, quand on met les choses à plat, quand on compare trait pour trait des systèmes politiques de l'Europe du XVIIe siècle et du monde islamique de la même époque, on s'aperçoit bien souvent qu'il y a peut-être plus d'éléments de convergence que de différence. Et c'est, en un sens, encore plus vrai au XIXe siècle avec l'absolutisme européen. Donc il y a des différences, mais elles ne sont pas nécessairement aussi radicales et surtout elles ne sont pas nécessairement fondées sur la culture. On n'a pas affaire de toute façon à des systèmes politiques fermés qui se reproduiraient en vase clos et sans ouverture sur le monde, sans être hantés sur le reste du monde. Pour le cas des régimes autoritaires, moi je pense qu'au bout du compte, s'il y a bien une spécificité, c'est une spécificité récente, voire très récente, qui se fige au XXe siècle, peut-être même dans la deuxième moitié du XXe siècle et pas avant. Donc ma démarche personnelle a été de revenir à l'histoire. Et quelle histoire ? C'est là que le poids du présent est crucial et il est absolument clair pour moi qu'on ne peut pas faire des sciences sociales sans que ce soit en même temps des sciences pour la société. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une science du fait social, mais c'est aussi une science pour agir. En tout cas, ça m'est apparu comme absolument incontournable à travailler sur le monde arabe. Depuis la première guerre du Golfe, en effet, et depuis aussi la fameuse crise du foulard, à peu près en même temps en France, 1990-91, je suis très fortement convaincue qu'on ne peut pas, sur un plan éthique, faire de l'histoire des sociétés musulmanes comme on ferait de l'histoire de l'Italie ou des États-Unis. C'est-à-dire qu'il y a une interpellation civique qui est permanente, il y a un enjeu éthique qui est permanent. Alors comment y répondre? C'est en partie l'objet donc de notre débat ce soir. Je dirais que tout d'abord, il faut réagir, il faut pouvoir réagir à une sorte de dilution ambiante de la science sociale en général. Sur la question de l'islam, l'islam en France ou ailleurs, les passions, comme vous le savez, se sont déchaînées. Et tout le monde revendique le droit de s'exprimer sur cette question sensible. Et Christophe Prochasson évoquait tout à l'heure la question des intellectuels médiatiques, des essayistes et de la question de la frontière avec le monde de la recherche en sciences sociales. Sur le monde arabe, c'est évident, on a vu fleurir quantité de spécialistes médiatiques qui ont par métier réponse à tout. Grosso modo, ils sont catégorisés comme politologues ou souvent d'ailleurs comme anthropologues. Anthropologues revêtant dans ce cadre un sens un peu flou et générique, un peu comme spécialiste justement d'une autre culture ou d'une autre société. Donc il y a un usage extensif du label anthropologique qui fait sérieusement problème. Mais l'islam donc est devenu un marché. Alors, il ne s'agit pas de réaffirmer face à cette évolution de manière corporatiste une sorte de privilège du monde académique qu'il faudrait défendre, mais la question se pose, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut participer de manière civique à ces débats ou est-ce qu'il faut rester en dehors et préserver, disons, un travail de fond, une recherche de fond? Je dirais qu'il faut faire les deux. Participer tout d'abord. Avec un premier constat lucide à opérer, c'est que, en tant que chercheurs, nous sommes justement assez mal armés pour participer au débat civique et encore plus au débat médiatique. Parce que, tout simplement, par nature, par définition, un chercheur en sciences sociales, c'est quelqu'un qui va débrouiller les choses dans leur complexité, qui va désintriquer des éléments complexes, enchevêtrés. Donc notre démarche de recherche, elle est par nature faite de nuances. Et la nuance n'est pas du tout ce qui est demandé dans un débat médiatique. Et grosso modo, et là c'est particulièrement caricatural depuis le 11 septembre, on nous demande d'être pour ou contre l'islam. Il y a des rôles à distribuer, il faut être blanc ou noir. Donc notre contribution passe très mal et très peu. Mais à titre personnel, je trouve qu'il faut quand même s'impliquer dans ces débats, répondre à une demande sociale en y apportant justement le fruit d'une recherche de pointe et le sens de la complexité des choses. Par exemple, j'ai coordonné un gros travail collectif sur la présence des musulmans en Europe avant les problématiques de l'intégration du XXe siècle. Donc un livre qui montre que dans différents pays d'Europe occidentale, la constitution finalement de la nation a eu à faire à l'intégration, l'assimilation de centaines, milliers de musulmans qui donc ils font partie de manière constituante des histoires nationales européennes. Cet ouvrage a été publié l'année dernière, mais avec un écho finalement très faible, qu'il faut accepter avec humilité. On est dans un temps de réception très lent des idées lorsqu'on bouscule des cadres d'évidence et d'une certaine façon lorsqu'on dérange notamment le débat sur l'identité nationale. Donc moi, j'essaie personnellement d'être très disponible pour parler dans des médiathèques, des bibliothèques, pour faire de la formation permanente, mais en sachant bien que ce que nous pouvons faire est de toute façon limité. Il n'en faut pas moins répondre donc à une demande sociale et à une tension dans la société. Sur un autre plan, en sens inverse, je dirais que la révolution tunisienne est aussi... c'est une question qui m'a profondément bouleversée sur un plan personnel et bousculée. Et là, on voit bien aussi que, à la fois, il faut prendre acte du fait que aucun écrit de sciences sociales n'a aidé à la révolution, aucun travail de recherche n'a aidé à la faire venir, aucun écrit même n'a aidé à la faire venir, ni littéraire, ni philosophique, ni de recherche. Mais que, dans le même temps, cette révolution a déclenché un besoin immédiat de sens, un besoin immédiat d'histoire, un besoin immédiat de connaissance des autres révolutions, et que donc nous avons malgré tout un rôle à jouer, même si ce n'est pas un rôle d'impulsion. À un moment, face à cette pression du présent, je crois qu'on ne sait plus à un moment si on est dans une lecture plutôt politiste, plutôt historienne, plutôt philosophique ou sociologique des choses. Les frontières disciplinaires se brouillent nécessairement. On est de toute façon en train de chercher de nouveaux cadres d'intelligibilité des choses, ou bien on est tout simplement pris par l'événement et perdu comme tout le monde. Et donc, je voudrais souligner le fait que c'est vraiment cette pression du présent qui fait aussi bouger les manières de faire et de penser et qui a des effets finalement heuristiques. Alors, pour conclure, je voudrais dire aussi, en sens inverse, que par rapport à ce poids écrasant de la conjoncture politique, il faut aussi résister par la recherche. C'est-à-dire que la recherche ne doit pas devenir une recherche instrumentale, et l'éthique, la responsabilité civique, ne nous transforme pas non plus en experts instantanés, en experts à la demande. D'autant plus que dans ce cas de figure, nous sommes constamment dans une réponse, dans une forme perpétuelle d'après-coup, de contre-discours. Il y a une offensive contre l'islam, contre le monde arabe, contre l'immigration, etc., qu'elle vienne du Front National, qu'elle vienne du ministère de l'Intérieur, ou de tel intellectuel islamophobe plus ou moins déclaré, et on se demande s'il faut répondre ou ne pas répondre. C'est toujours répondre, et sur un terrain mouvant qu'on n'a pas formaté, répondre à des questions qu'on n'a pas soi-même formulées et qui donc sont nécessairement mal formulées. Alors qu'il faut au contraire avoir une force de proposition, d'une part, et d'autre part, il faut préserver les conditions d'une sortie de crise, parce que la société évolue. Et que notamment la place des musulmans dans la société française, pour en rester au cas de la France, ne sera plus la même dans 10 ou 20 ans, et qu'il faut avoir justement des éléments de rebond pour repenser finalement la société. Donc concrètement, moi j'ai fait le choix de travailler sur les périodes de l'histoire du monde arabe qui sont les moins connues, parce qu'on pensait que c'était celle justement du déclin, pour essayer de discuter justement cette perspective décliniste qui est tellement enracinée dans le sens commun quand on parle de l'islam ou des arabes. Donc, ni l'âge d'or médiéval, ni les périodes contemporaines avec la colonisation, etc. Donc, il y a pratiquement personne en France qui fasse de l'histoire du monde arabe entre le XVIe et le XVIIIe siècle. C'est quand même assez ahurissant. Et donc c'est là, à mon sens, que je trouve qu'il y a matière à œuvrer pour l'avenir, mais aussi à préserver ce que j'appelle donc une force de proposition qui va être nécessairement, qu'on le veuille ou non, et qu'on s'en glorifie ou non, la production d'une pensée à contre-courant. Et voilà, c'est un projet, un programme finalement ambitieux, mais sur une base extrêmement modeste, qui est celle de réagir à la pression des circonstances.
Merci, Jocelyne, pour cette réflexion sur l'évolution au fil du temps de ton objet d'étude, non seulement sous l'effet des circonstances théoriques et des déplacements conceptuels de l'histoire et des disciplines voisines, mais aussi sous l'effet des transformations de la société qui produit le type de science et de l'opinion publique en fonction des circonstances. Je me souviens, quand tu disais la difficulté qu'il y a à définir une civilisation méditerranéenne, c'est une question que j'avais posée à John Davis, l'anthropologue d'Oxford. Il m'avait répondu, c'est très simple, c'est la moustache. Je pense que
aux hommes, ça.